Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Ce sont les expertes aujourd'hui. Marie Cœur de Roy nous a rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Nous sommes également avec Caroline Arnoux, la directrice générale de CAFPI. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et puis Bérénice Deville, notre consoeur, est avec nous, rédactrice en chef de Radio Immo.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, mesdames, pour faire un tour d'horizon de tous les sujets immobiliers. Oui, c'est possible en une demi-heure sur BFM Business. Nous sommes également avec nos auditeurs. Vous nous écrivez, vous nous suivez en direct, vous malpaguez sur LinkedIn. Je lis vos messages à Marie et à l'équipe qui peut y répondre, également à l'adresse directe @bfmbusiness.fr. Et on va commencer par les conditions de crédit qui s'améliorent un petit peu.
Ouais, il faut qu'on démarre par là. En plus, on a Caroline, donc on va évidemment l'embêter là-dessus. Caroline, on entend dire depuis le début de l'année, ça va mieux, les taux baissent, les banques sont plus généreuses. Concrètement, on en est où sur les conditions d'emprunt? Là, on est quoi? Mi-mars, fin mars, on en est où?
On est bien.
Bon, bah, voilà, c'était une réponse brève, hein, mais...
On est bien, on est en dessous de 4%, qui c'est quand même assez incroyable.
Inespéré.
On a une vraie baisse des taux depuis le début de janvier. Donc là, sur 20 ans, on est à 3,75. On atteint pour des très beaux dossiers même 3,50.
Ah ouais.
Donc on est vraiment sur un bon niveau de taux et sur des taux qui s'y sont stabilisés. Hein. Je pense qu'aussi les banques ont de l'appétit pour le crédit. Elles veulent aller chercher les nouveaux clients. On est sur des bons niveaux de taux actuellement.
Et au-delà des taux, Caroline, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a de la souplesse aussi au niveau des banques? C'est-à-dire que bien sûr la baisse des taux peut être décisif pour obtenir un crédit immobilier, mais est-ce que, en termes d'apport, d'éléments de ce point de vue-là, est-ce qu'on a l'impression qu'elles sont quand même plus souples aussi?
Oui, il y a beaucoup de souplesse. On revoit des conditions qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, des financements à 110%. On a vu des banques aussi qui proposaient des taux à 30 ans. Des crédits à 30 ans. Donc hors critères HFR.
C'est ce que j'allais dire, en dépit des règles.
Exactement. Donc là, on a vraiment, de bonnes conditions pour emprunter aujourd'hui.
Et boule de cristal oblige. C'est quoi votre perspective, Caroline, pour fin d'année, avec la perspective d'une baisse de taux de la BCE aussi? Est-ce que ça peut s'accélérer? Et où est-ce qu'on pourrait atterrir en termes de taux d'intérêt en fin d'année, selon vous?
Oui, ça peut s'accélérer. On a vu la Fed, cette semaine, ne pas bouger ses taux, mais pour autant annoncer 3 baisses de taux sur 2024. Donc 3 fois 0,25, ce qui ferait 0,75. Donc la BCE pourrait suivre. On a eu des annonces et du gouvernement et du gouverneur de la Banque de France qui nous dit que c'est très probable qu'au mois de juin, on va avoir une baisse des taux de la BCE. Donc les taux à fin d'année pourraient s'approcher des 3%.
Ouais, Bérénice, je vous regarde par rapport à ce que dit Caroline. C'est vrai que nous, en tant que journalistes, on était tout le temps l'année dernière à dire ça bloque. Là, on voit effectivement que ça va un petit peu mieux. Pour autant, les règles n'ont officiellement pas vraiment changé. C'est un sujet, ça, quand même, les règles du HCSF, donc le Haut Conseil pour la Stabilité Financière. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire de ce côté-là pour améliorer encore les choses, ou est-ce que finalement l'attitude des banques seules suffit?
Alors, on va en parler tout à l'heure. Il y a le député, Lionel Causse, qui a fait une proposition de loi à ce sujet. Après, vous l'avez dit, il y a 20% d'exception, il y a une possibilité de 20% d'exception fixée par le HSF. C'est vrai que les banques font appel à cette règle, on va dire, pour déroger.
Difficilement. Elles ont du mal à la piloter. Donc cette règle, elle est bien, mais c'est très difficile à piloter pour les banques de savoir où elles en sont par rapport à leur niveau de dérogation. Après, je ne sais pas si on reviendra au niveau du...
Allons-y maintenant. Allons-y maintenant, surtout sur Lionel Causse, là, parce que Bérénice l'a abordé.
Qui est ce député? Alors, c'est le député des Landes, c'est un ancien maire, et c'est aussi le président du CNH, dans le Conseil National de l'Habitat, donc qui travaille constamment sur, justement, cette crise du logement, et ils font plein de propositions. Et donc, une des propositions de loi qu'il vient de remettre, c'est concernant, justement, le HCSF, donc le Haut Conseil de Stabilité Financière.
Et qu'est-ce qu'il dit, Lionel Causse? Parce que, alors, je crois qu'il veut mettre au sein du HCSF des parlementaires. « ok, une fois qu'on a dit ça, super. Mais derrière, il y a un autre élément quand même qui pourrait peut-être avoir un impact.
Voilà, il veut supprimer la fameuse règle des 35% parce qu'il dit que ça, c'était très...
35% d'endettement.
D'endettement, voilà. C'était efficace quand les taux étaient bas, mais maintenant que les taux sont remontés, eh bien, ça porte préjudice à de nombreux ménages. Alors ça, est-ce que... C'est...
Alors, il veut pas vraiment il veut pas le supprimer, mais on peut dépasser les 35%, ouais. Mais il faudra montrer qu'il n'y a pas de risque de surendettement. Donc
parce qu'en fait, le sujet, c'est le reste à vivre, Caroline.
Oui, mais
c'est 35% d'endettement, on le répète assez régulièrement, 35% d'endettement quand on gagne 10 000 euros par mois ou quand on en gagne 1 500, c'est pas exactement pareil.
Oui, oui, non, mais on voit bien que c'est évidemment, en plus, on a vu que le ministre de l'économie était favorable à cette proposition, donc c'est intéressant. Tout le monde sait qu'il faut le faire bouger, mais il ne faut pas encore rentrer dans une nouvelle usine à gaz.
Alors, le gouverneur de la Banque de France n'est pas favorable, en revanche. Il fait partie du
tout
HCSF.
Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais globalement, sur le HCSF, on le voit bien, c'est quand même quelque chose qui a été mis en place de façon complètement contracyclique en 2022. Les banques n'ont jamais favorisé le surendettement. Sur les 20% de Français qui ont un crédit, seulement 5% sont surendettés.
Ouais, ouais.
Sont dans les surendettements. Donc, ce n'est pas vraiment le crédit immobilier qui est vecteur de surendettement. Nous, en tant que courtiers, mais aussi en tant que présidente de l'association des courtiers, on milite vraiment pour un moratoire, vraiment une suppression des normes HCSF. On prendrait zéro risque à dire on fait une pause de 6 mois, d'un an, et on voit ce qui se passe.
Et puis, on l'a vu, Caroline Bérénice, on l'a vu quand même l'année dernière, c'est-à-dire quand le marché se retournait, les banques n'ont pas pris de risque inconsidéré. Et justement, quand elles considèrent que ce n'est pas le moment de prêter, bah, on l'a bien vu parfois au détriment de bon nombre d'acheteurs qui étaient pourtant solvables, elles n'ont pas prêté. Donc, comme vous le disiez, Caroline, en termes de surendettement, c'est pas le crédit immobilier, c'est bien les crédits conso. Exactement. Qui pénalisent.
Oui, mais parce qu'il y a ces règles. Parce que quand on prend le discours de la Banque de France, justement, il n'y a pas de surendettement. Parce qu'il y a ces... Enfin, c'est leur discours.
Bien sûr, c'est leur discours, on est d'accord, Bérénice. Mais c'est vrai, quand on regarde avant que ces normes deviennent contraignantes, c'était d'ores et déjà le cas. Donc les banques... Enfin, et c'est, je pense, pour ça qu'on n'a pas vécu ce qu'ont vécu les États-Unis en 2008. Mais bon, justement, on a une petite question d'auditeur qui va s'adresser, je pense, directement à Caroline.
On a une question de Franck qui nous suit et qu'on salue, qui est primo-accédant. Il a une interrogation sur le choix du mode de financement de son acquisition qu'il prépare activement dans le neuf, un logement neuf en cours de construction. Il a trouvé un bien, déjà bravo. Donc il cherche comment le financer. Il se demande si c'est plus avantageux pour lui de passer par un courtier en prêt immo ou bien de faire le tour des banques, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Franck ?
À votre avis.
Que va nous dire Caroline du courtier CAFPI ?
Non, en vrai, le financement du neuf, on sait qu'il y a des aides, on sait qu'il y a des systèmes. Donc je pense que déjà, être conseillé, être accompagné, c'est extrêmement important et un courtier vous apportera ce conseil. Ensuite, en ce moment, on est dans une phase de conquête pour les banques. Elles veulent aller chercher des clients, donc elles sont prêtes à décoter sur leur barème. Donc nous, on reçoit des barèmes bancaires où vous avez parfois un point d'écart entre une banque et l'autre selon les types de produits.
Il y a une vraie concurrence, Caroline. Ouais.
Donc il y a les barèmes, il y a les prix catalogues, et il y a ensuite ce que la banque, finalement, par rapport à la typologie de vos clients, elle vous accorde. Donc effectivement, passer par un courtier, ça va permettre d'aller voir tout le panel des banques, donc aller plus vite, être conseillé sur les aides, pour les primo-accédants et pour le neuf, comparer les offres, négocier tout ce qu'il y a dans le crédit aussi, l'assurance emprunteur. Et on l'a vu aussi, les dérogations des banques qui dérogent aux critères HCSF, bah, selon les périodes, selon qu'elles ont octroyé trop ou pas assez de dérogations.
Ouais. Il y a des banques d'un coup d'un seul qui vont passer de l'autre côté. Et ça, vous courtiez, vous le savez. Bérénice ?
Oui, alors moi, je suis peut-être un peu plus objective parce que je suis...
Oh, et bim !
Je ne défends pas les courtiers, mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a de grosses différences entre les banques. Donc, le courtier va aller chercher justement le meilleur taux. Et puis, c'est un gain de temps aussi, il faut le dire. On n'a pas... Enfin, c'est le courtier qui fait tout le travail. On n'a pas à faire le tour des banques. Ça prend quand même du temps. Donc, c'est vrai que c'est une période qui est plutôt...
Parce que le sujet, Bérénice, c'est peut-être qu'effectivement, effectivement, bon, Caroline est courtière et c'est normal qu'elle prêche pour sa paroisse. Oui. Mais en l'occurrence, quand on est sur un marché compliqué, c'est précisément là où
on a
priori,
besoin d'un courtier.
C'est ça, hein, ouais. Parce que quand on était à des taux à 1% ou limite, vous passiez le pas de la banque, vous aviez votre crédit, c'est fini ça. Hein,
là,
on est d'accord, Caroline.
Hein,
les conditions s'améliorent, mais c'est pas la fin. Bon.
Et puis vous avez le pouvoir de négociation aussi. Vu que vous apportez un grand nombre de dossiers, vous avez un pouvoir de négociation que chaque particulier n'a pas forcément quand on n'a pas des profils, quand on a des profils normaux, entre guillemets.
Oui, et puis parfois, savoir combien emprunter. Ouais. Est-ce que je mets mon épargne en apport? Est-ce que j'emprunte plus? Donc, est-ce que j'allonge la durée? Donc, il y a toute cette technicité vraiment qui est hyper importante.
On va parler aussi des réformes, des petites mesures. Et en plus, comme on parle du neuf, je trouve que puisque Franck nous écrit pour l'achat d'un logement neuf, il y a deux, trois choses qui ont été annoncées ces derniers temps.
Encore. Un petit peu de simplification, peut-être. Vous voulez nous raconter des choses qui vont se simplifier?
Oui, on a effectivement eu les annonces du nouveau ministre, Monsieur Kasbarian, qui a le mérite d'exister.
Ministre ou les annonces
d'être présent et de vouloir essayer de faire bouger les choses. Ces annonces de simplification, elles sont toujours la bienvenue. Simplification pour les permis de construire.
Les recours.
Simplification pour les recours.
Pour les maires.
Pour les maires. C'est pas vraiment ces mesures qui vont débloquer la crise du logement.
On est assez d'accord, Caroline. D'autant qu'en fait, le problème qu'ils ont là au sein du gouvernement, c'est quand même cette équation budgétaire compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent faire des économies et de l'autre, ils voient bien qu'on est sur un secteur qui est à la peine. Donc en gros, on prend des mesures qui ne coûtent rien.
Exactement.
C'est ça le.
Exactement. On se rend bien compte que malheureusement, le ministre des Logements n'a pas les finances à côté avec les dispositifs qui vont disparaître. Ou s'amenuiser.
On parle Pinel, du PTZ.
PTZ pour les maisons individuelles. On parle du Pinel, qui pour nous, pour moi, c'est vraiment un mauvais calcul. On le sait, ça rapporte énormément d'argent et de recettes fiscales pour le gouvernement, enfin pour l'État.
Ouais, ouais.
Et malheureusement, c'est ne voir qu'une seule partie de la médaille.
Alors Bérénice, il y a quand même un truc sur lequel le gouvernement veut mettre un peu de petits sous. Le logement intermédiaire.
Tout à fait. Et un pacte a été signé cette semaine, justement, avec au ministère du Logement, avec Christophe Béchu, donc le ministre de la Transition écologique, Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre du Logement, et les partenaires sociaux, donc d'Action Logement, l'Union sociale de l'habitat, la Fédération des ESH, des entreprises sociales pour l'habitat, et la Caisse des dépôts et France Assureurs. Donc, en fait, en gros, ils veulent développer le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, qu'est-ce que c'est? C'est, on l'appelle le LLI, donc logement locatif intermédiaire. En gros, c'est des logements entre les logements sociaux et entre les logements privés avec
loyer 10-15%.
15 à 20% en dessous du marché, en fait, des prix du marché.
C'est pour qui, typiquement, le logement intermédiaire?
Les classes moyennes. Alors, Gabriel Attal, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans son discours de politique générale, l'avait clairement dit, il veut vraiment désmicardiser pour promouvoir le travail, déverrouiller pour libérer la croissance. Clairement, c'est ça qu'ils veulent faire en développant le logement intermédiaire. Ça s'adresse à des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à se loger dans les grandes villes parce que ça coûte trop cher pour eux. Ils n'ont pas assez, pour ça.
Après, il faut faire très attention sur les plafonds de ressources. On est quand même sur des ressources qui sont relativement élevées pour le logement intermédiaire. C'est-à-dire que quand on avait posé la question aux bailleurs sociaux de leur demande de HLM combien pouvait être éligible à un logement intermédiaire, en l'occurrence, je crois que c'était peanuts, cacahuètes. Ça devait être 3%, 4%, je ne sais plus, mais c'était assez faible. Donc on est quand même sur de la classe moyenne supérieure, presque.
Après, ça va dépendre des zones, je pense aussi. Donc, justement, ce pacte, c'est pour étendre, donc développer 75 000 logements sociaux donc en 3 ans, qui seront neufs et anciens. Donc, ça, c'est vraiment le but du gouvernement, l'objectif du gouvernement.
Et puis, logements sociaux ou logements intermédiaires?
Donc, 75 000 logements intermédiaires en plus en 3 ans. Il y a vraiment un coup d'accélération de la part de l'État et puis aussi de la part des bailleurs sociaux, parce que Action Logement a créé une filiale d'ailleurs depuis 2017, des filiales INLI qui sont dédiées au logement intermédiaire.
C'est le logement intermédiaire en Île-de-France.
Et la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat aussi. C'est le deuxième pacte qu'elle signe. Le premier était en 2021. Donc il y a vraiment une accélération des bailleurs sociaux pour ce type d'habitat.
Mais enfin, est-ce que ça peut suffire, Caroline? J'ai envie de vous poser la question parce que c'est vrai que le logement locatif intermédiaire, on appelle ça le Pinel des institutionnels. Est-ce qu'on peut se satisfaire et se suffire de l'investissement des institutionnels, j'ai envie de dire, versus le Pinel des particuliers qui va mourir à la fin de l'année?
Non, et clairement, le logement, quand tout va bien, c'est 96 milliards de revenus fiscaux. Je crois que c'est 96, j'ai noté.
Je crois que 96 dans de vos chiffres, parce que moi, je
c'est 96 milliards
de recettes
fiscales en moyenne, seulement 42 milliards
de dépenses.
De dépenses et d'aides publiques. Hein, et la crise du logement, moi j'ai noté, c'est une baisse des recettes fiscales d'environ 7 milliards. Déjà pour l'État, donc le calcul
est mauvais.
Déjà le calcul est mauvais. Ensuite, on s'avance vraiment vers une autre crise qui va être la pénurie de logements. Donc là, quand je vois votre auditeur qui achète dans le neuf, franchement c'est super. On y reviendra parce que c'est le bon moment pour acheter.
Dans le neuf, ouais.
C'est le moment pour acheter dans le neuf, mais pour acheter.
Acheter tout court, ouais.
Parce qu'évidemment, quand les conditions de crédit vont encore se desserrer, vous allez avoir des prix d'immobilier qui vont remonter.
Ouais, on va
alors
en parler,
que là,
ouais,
par rapport au plus haut, dans les grandes villes, on est à moins 10 à Paris. Donc en fait, vous allez avoir une pénurie de logements, vous allez avoir des prix de l'immobilier.
Il y a déjà d'ailleurs une pénurie de logements.
Ouais, mais qui ne vont plus baisser. Ouais, ouais.
Donc ces dispositifs fiscaux, j'espère vraiment que le gouvernement va faire machine arrière. Ils sont indispensables pour relancer le logement en France.
On va marquer une petite pub, mais avant ça, je voudrais vous lire un extrait du long mail que notre auditeur Arnaud nous a adressé, Marie, et nos experts vont peut-être pouvoir y répondre. Il nous dit que pour faire baisser durablement le prix des logements neufs, il faut carrément abroger la loi SRU.
Bah, il va être satisfait, Arnaud. Moi, je suis pas convaincue que ce soit la bonne solution, mais bon.
Imposer aux bailleurs sociaux de faire leur métier, qui est de produire et gérer des logements sociaux, et arrêter de faire subventionner le logement social par les acquéreurs de logements libres, qu'ils soient occupants ou investisseurs. On y réfléchit pendant la pub et on vous répond, on réagit à votre propos, Arnaud, avec nos expertes. À tout de suite.